Bonsoir tout le monde. C'est toujours un peu étonnant de parler à un écran, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je m'appelle Gilles Raveau, je suis enseignant d'économie. Donc je vais effectivement, on va essayer de réfléchir ensemble à cette histoire d'inflation. Donc évidemment, j'ai aucune vérité révélée ni aucun scoop à vous annoncer. Moi, l'idée, c'est juste qu'on essaye, voilà, vraiment juste de comprendre un petit peu ce qui se passe, sachant que ce qui se passe quand même absolument. Personne ne l'avait prévu, donc le fait d'être surpris, c'est tout à fait normal. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on est un économiste à partir de cette histoire d'inflation ? Alors, je vais essayer de juste vous mettre deux, trois éléments relativement, indiscutables pour lancer la discussion, mais après, évidemment, ça pourra partir dans les directions que vous souhaitez. Donc la première chose, j'ai l'habitude de dire beaucoup de banalités, comme vous le savez, donc je vais continuer ce soir. Donc la première chose, c'est que l'inflation, c'est la hausse des prix. Mais la première question qu'il faut se poser, et qui est pas du tout assez présente dans la couverture médiatique et politique générale actuelle, c'est qui peut augmenter son prix. C'est-à-dire que dans l'économie, en fait, il y a assez peu de gens qui peuvent augmenter le prix de ce qu'ils vendent. Alors, pour nous, les économistes, en fait, tout est un prix, et donc notamment le salaire, hein, si vous êtes salarié, nous, on considère que c'est un prix. C'est un prix particulier, mais c'est un prix. Et donc, évidemment, la plupart des salariés ne peuvent pas augmenter le prix de vente de leur travail. C'est-à-dire que le salaire, il est fixé par le patron. À l'inverse, vous avez des acteurs économiques dominants, et donc là, l'actualité, c'est... Vous avez peut-être vu l'augmentation du prix de l'abonnement chez Amazon, l'abonnement Amazon Prime. Bon, bah Amazon, pour des raisons assez simples, qui a beaucoup de clients, peut augmenter son prix de vente. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas de conséquences négatives pour Amazon, mais simplement Amazon peut augmenter son prix. Donc déjà, la première chose à se dire, c'est dans l'économie, qui peut augmenter son prix et qui ne peut pas. Par exemple, dans un pays comme la France, quand vous êtes propriétaire d'un logement que vous louez à quelqu'un, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec le loyer. Vous voyez, c'est un prix, évidemment, le loyer. Hein, donc voilà, il y a différents types de prix. Il y a les prix des biens de consommation, il y a les salaires, il y a les loyers, vous voyez. Et les différentes personnes ont plus ou moins de marge de manœuvre pour augmenter leur prix. Il y a des gens qui peuvent vraiment rien faire du tout. Hein. C'est, par exemple, si vous êtes une personne retraitée, très âgée, malade, vous ne pouvez absolument pas travailler. Bon, vous vivez votre retraite et vous n'avez évidemment aucun moyen, vous-même, individuellement, d'augmenter la valeur de votre retraite. C'est pour ça que ça passe par des solutions politiques, parce qu'il n'y a pas de solution par le marché économique qui permettrait de vous aider. Voilà. Donc ça c'est la première idée à avoir en tête. Ensuite, la deuxième idée, c'est la spécificité de la situation actuelle. Donc là encore, c'est une banalité, mais je préfère la rappeler. C'est qu'en fait, on vit un choc extérieur, hein, qui est dû donc effectivement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui, par un certain nombre de mécanismes, mais quand même finalement assez simple, conduit à une forte hausse du coût de l'énergie. Et il faut se rappeler que l'énergie est nécessaire dans absolument la totalité de nos activités. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de consommer de l'énergie. Heureusement, j'ai une tablette de chocolat à côté de moi qui me permettra de récupérer l'énergie que je suis en train de brûler. Mais dès qu'on respire, on consomme de l'énergie. Dès qu'on se déplace, on consomme de l'énergie, même par la marche, même par le vélo, etc., etc. Donc, quand il y a une augmentation du prix de l'énergie, ça fait augmenter absolument tous les prix dans l'économie, tous les prix courants au sens ordinaire du terme de ce qu'on achète. Et donc la spécificité de la situation actuelle, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas nous-mêmes, la France, producteurs de cette énergie. Et donc, ce que malheureusement, je regrette vraiment, ce que Bruno Lumaire n'a pas l'intelligence de dire, parce qu'il est quand même strictement pour rien, c'est qu'on vit ce qu'on appelle, nous les économistes, un prélèvement extérieur. C'est-à-dire que il y a une part, on le vit tous au quotidien, il y a une part beaucoup plus importante qu'avant de nos revenus qui sort du pays. Qui sort intégralement du pays. Alors vous allez me dire, il y a une part qui va dans les poches de Total et vous aurez tout à fait raison. Mais ça n'empêche que la grande majorité de l'augmentation du prix de l'énergie, eh ben, elle part vers les vendeurs de pétrole qui sont les monarchies pétrolières, vers la Russie pour le gaz, etc. Et donc, si vous voulez, on est face à une situation en fait assez simple sur le plan économique, mais évidemment douloureuse sur le plan politique. C'est que le pays, si on prend la France comme un pays, en fait, le pays s'appauvrit. Donc la question politique, elle est assez simple, c'est, puisque nous sommes tous perdants, si je simplifie un peu, en tout cas l'immense majorité des habitants du pays, l'immense majorité des entreprises du pays sont perdants dans la situation actuelle, comment est-ce qu'on répartit les pertes ? Et donc c'est ça, ça, c'est une vraie question politique. Comment est-ce qu'on répartit les pertes entre les riches et les pauvres, entre les entreprises et les familles, entre l'État, etc. Voilà, c'est ça la question. Et moi, je regrette vraiment que Bruno Le Maire n'ait pas l'intelligence de dire, ben voilà, c'est ça. C'est ça la question. Et après, ben, on va faire ce qu'on peut. Après, c'est des choix politiques, etc. Mais au moins reconnaître qu'il y a ce prélèvement extérieur. Ah, et donc, on a une inflation spécifique au sens où... alors, j'ai du mal à trouver un contre-exemple, mais on pourrait tout à fait imaginer une inflation qui soit... moi, je sais pas, si imaginons, par exemple, voilà... je sais pas, d'un coup, voilà, les boulangers deviennent un lobby hyper organisé et ils décident voilà, de tous augmenter leur salaire, de tous doubler leur salaire, de doubler le salaire de tous les employés des boulangeries, pâtisseries de France, etc. Et ils vendent leurs baguettes et tout deux fois plus cher. Imaginons ça, d'accord ? Ils se coordonnent sur les prix, bon, bim. Impossible de retrouver une baguette à 1 euro, elle est à 2 euros partout. Bon, si ça se passe, on a une forte inflation, qui donc aura des conséquences, peut-être qu'ils vendront un peu moins de baguettes, mais ils en vendront quand même. Et donc là, on voit bien que c'est une inflation qui conduit à une redistribution au sein du pays. C'est-à-dire que nous, les consommateurs, on va payer plus cher notre pain, et ce bénéfice, il va aller dans la poche des boulangers et de leurs salariés. Voilà. Bon, ça, c'est une inflation qui a des conséquences redistributives au sein du pays. Vous voyez ? Donc c'est la différence avec l'inflation actuelle réelle, où tout l'argent part à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose, c'est que... donc là, c'est un autre débat que suit vraiment de l'inflation, mais moi, je trouve ça important de faire le lien. C'est que, alors là, ça va être le point le plus technique, donc j'espère que vous n'êtes pas en temps totalement assoupi. C'est que, il faut, et ça, je pense qu'en France, on a beaucoup de mal avec cette idée, donc j'attends de voir les questions pour voir si je me gourde de ce point de vue-là. Mais en France, on a l'idée que l'économie, vous voyez, est entièrement politique. Et alors évidemment, d'un côté, c'est totalement vrai au sens où on pourrait vivre dans une société totalement différente, soit extrêmement inégalitaire, soit totalement égalitaire, enfin du point de vue économique, on pourrait, en France, vivre dans le communisme, ou on pourrait vivre, hein, vous savez, dans un pays libertarien, où même les lois s'achètent, où il n'y a absolument aucun service public, où même la monnaie est privée, tout ça c'est vrai. Donc de ce point de vue-là, à ce niveau de généralité, effectivement, l'économie est absolument politique, ça je suis d'accord pour dire ça. C'est très important de le dire même. Mais ce que je dis à mes étudiants, et qui n'est pas contradictoire, c'est qu'au sein d'un système économique donné, par contre, tout n'est pas possible du tout. C'est-à-dire que ouais, c'est comme dans une famille et tout ça. Une fois qu'il y a des trucs qui existent, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Bon. Et la chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, c'est que, qui pourtant devrait quand même être assez évidente, notamment pour les gens qui au moins font semblant de nous diriger, c'est que qu'est-ce que c'est que l'écologie, hein, qu'est-ce que c'est que la contrainte écologique? Déjà, je pense que c'est très important de dire que l'écologie, c'est tout à fait une catastrophe, puisqu'on est, voilà, par nos activités quotidiennes comme celles que nous avons actuellement, on sait qu'on est en train, petit à petit feu, de détruire la vie sur Terre. Donc, ça cause une tristesse collective absolument majeure. Donc, je ne vois pas du tout en quoi se soucier de l'écologie, ça serait un truc sympa et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve impossible à entendre. Mais surtout, d'un point de vue économique, qu'est-ce que ça veut dire l'écologie ? C'est-à-dire que si... ce qui évidemment n'arrivera pas, hein, mais si on était sérieux par rapport à la question écologique, en fait, le slogan, ça serait « le moteur, voilà l'ennemi ». C'est-à-dire que si on voulait vraiment préserver ou même juste ralentir la destruction de la vie animale et végétale sur Terre, eh bien, il faudrait en fait se passer le plus possible de tous les moteurs. Hein, c'est-à-dire de toutes les formes d'énergie artificielle et revenir ben voilà, au temps pré-industriel où... quelle était la source d'énergie ? Eh ben, c'était les êtres humains et les animaux, hein, avec les vieilles images, avec les chevaux qui tirent les charrues, etc. Bon. Donc ça, si vous voulez, ça c'est établi du point de vue de la physique. Vous voyez ? Et donc là, c'est ce que je veux dire, c'est là qu'on peut pas dire que c'est politique, c'est que là, et c'est la grande difficulté qu'on a à penser l'écologie, c'est que l'écologie, le fonctionnement de la planète, c'est des fonctionnements évidemment qualitatifs, et qui se mesure par les sciences naturelles, par les sciences physiques, et donc, si vous voulez, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire que, voilà, en fait, le constat est même très très net, et même affreusement net. Bon, et donc si je reprends mon raisonnement d'économiste, quelle est la différence entre le paysan avec sa charrue et le paysan français aujourd'hui avec son tracteur ? Bon, ben, c'est que le paysan avec sa charrue, il peut faire vivre quelques personnes, alors que le paysan français avec son tracteur aujourd'hui peut faire vivre quelques milliers de personnes. Et comment ça s'explique, ça ? Mais évidemment, c'est la machine. Et quel est l'effet de la machine ? La machine, elle fait des gains de productivité. D'accord ? C'est-à-dire que pour la même quantité disons, de choses que vous faites rentrer dans le processus de production, de temps, etc., vous récoltez 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus qu'avant. Hein, le secteur, dans, là, vraiment, si on fait, je sais que c'est des grandes phrases, mais tant pis, si on fait vraiment dans l'histoire de l'humanité, le secteur économique qui a fait de très loin le plus de gains de productivité, c'est l'agriculture. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, paysan, c'est le premier métier sur la planète. Mais il y a deux siècles, si vous voulez, voilà, la grande majorité des êtres humains partout étaient soit agriculteurs, soit avaient des métiers liés à l'agriculture. Il faut quand même se rappeler de ça. Et aujourd'hui, en France, vous voyez, si vous baladez, je ne sais pas, vous habitez, etc., mais sauf si vous êtes dans une zone très rurale, on peut en France aujourd'hui se balader énormément et pas voir un seul agriculteur. Et pourtant, ces personnes qui sont absentes, en fait, du quotidien, c'est elles qui nous nourrissent, puisque vous savez qu'en France, on est plutôt exportateur de produits agricoles. Donc, c'est absolument prodigieux, vous voyez, c'est absolument prodigieux. Et, en fait, tout est parti de là, c'est-à-dire que, grâce aux incroyables gains de productivité dans l'agriculture, eh ben, le coût de production de la nourriture s'est effondré. Et c'est ça qui nous a permis d'abord, dans un premier temps, d'enrichir notre alimentation, en mangeant de la viande, ce qu'avant on ne faisait pas, et puis surtout en dégageant du pouvoir d'achat pour d'autres activités. Et c'est comme ça que, dans un premier temps, l'effondrement vraiment du coût de la nourriture a fait que, eh bien, nos parents, nos grands-parents ont pu s'acheter voilà, une machine à coudre, une radio, puis une machine à laver, puis une voiture, et puis que nous, maintenant, c'est banal de prendre l'avion. En fait, tout ça, absolument tout ça, découle des gains de productivité dans l'agriculture. Et là, ce que nous disent les vrais scientifiques, c'est que, en fait, la nature est en train de prendre sa revanche, et bon, là, c'est très net actuellement, donc je pense que tout le monde le comprend. Et donc, qu'est-ce que c'est que la sécheresse d'un point de vue d'économiste ? Eh bien, c'est un effondrement de la productivité. Et donc, là, il y a une augmentation du coût de production, mais dont il faut bien comprendre qu'il ne bénéficie évidemment absolument pas du tout à l'agriculteur. C'est qu'en fait, c'est une perte, vous voyez, c'est là le parallèle avec la guerre en Ukraine, c'est avec ça que, c'est à ça que je voulais venir. C'est que, de même hein, que Poutine nous prend des trucs, eh bien, la nature... déjà maintenant, commence à nous prendre des trucs et va nous en prendre de plus en plus et va nous en prendre dans une mesure absolument considérable par rapport à ce qui nous arrive avec Poutine. Et ça, si vous voulez, cet avenir-là, il est déjà très largement écrit pour tout un tas de phénomènes d'inertie qu'expliquent très bien les physiciens et aussi pour tout un tas de phénomènes que nous, économistes, et surtout moi, le type d'économiste que je suis, c'est-à-dire très attentif aux sciences sociales, nous sommes dans une société de consommation. Pour dire les choses simplement, les séries américaines sont regardées sur la planète entière, et tous les habitants de la planète veulent vivre comme les gens de Friends ou de n'importe. Ils veulent avoir voilà, leur maison, leur voiture, etc. Je ne vois pas tellement de raisons de vouloir l'en empêcher, et surtout, de toute façon, c'est impossible. Et donc, partout, en Afrique, en Asie, les gens sont baignés de publicité, de souhaits, de confort et tout ça. Et donc, évidemment, il va évidemment y avoir aucune diminution des émissions de gaz à effet de serre, et qu'au contraire, elles vont évidemment continuer à augmenter toujours plus fortement, et que donc les phénomènes qu'on voit de dégradation de la nature vont s'accélérer, évidemment. Non seulement on ne va pas les arrêter, évidemment, ils ne vont pas ralentir, mais dans tous les domaines, hein, vous regardez l'augmentation de la température des océans, enfin, tous les phénomènes, là, vraiment, il faut s'intéresser là, aux sciences physiques, il n'y a aucune espèce de débat sur le fait que tous ces phénomènes vont s'accélérer, et donc, pour terminer, j'ai presque fini. Voilà, moi, ma lecture d'économiste, mais évidemment d'économiste, qui est un être humain, c'est que tout ça, ça veut dire que, ben, voilà, si vous voulez, travailler plus pour avoir la même chose. Travailler beaucoup plus. Et il va y avoir évidemment des pertes très importantes. Les coûts des assurances vont évidemment augmenter beaucoup avec tous les épisodes de grêle, tout ce que vous voulez, etc. Et donc, l'abondance que typiquement mes parents ont connue, évidemment qu'on l'aura plus. Et donc, évidemment que vous voyez que si travailler plus pour avoir moins de choses, et ben ça, c'est une baisse très forte du niveau de vie. Alors évidemment, ce qui est triste, c'est que d'un point de vue intellectuel, je suis vraiment convaincu que si on avait une vie beaucoup plus sobre, beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus simple, en se déplaçant moins, etc., on serait plus heureux, on serait en meilleure santé, et on pourrait faire des économies considérables sur le système de santé, de médicaments, et par rapport à toute la vie hyper malsaine que j'ai, par exemple, et que nous sommes très nombreux à avoir en ville, toujours le cul dans la bagnole ou dans les transports, à développer tout un tas de pathologies parce qu'on n'a pas d'activité physique, c'est aussi mauvais pour la santé mentale, etc. Donc ce qui est fou, c'est que du point de vue, je dirais, du tableau noir du prof, il y a cet équilibre, haut, de la société sobre et tout ça. Mais moi, si vous voulez, voilà, en tant que plus en tant qu'être humain plutôt dépressif, mais aussi quand même mais dépressif parce qu'à cause de tous les travaux que je lis, je ne crois pas une seule seconde que atteindre cet équilibre haut soit possible, parce que tout simplement, ben, j'en ai pas envie. Parce que moi, j'ai une bagnole pour aller me balader dans les Yvelines le week-end, etc. Bon, voilà, je répète toujours la même chose. Et que donc, je vais pas mentir en disant que je veux plus jamais prendre l'avion, que je vais arrêter de manger de la viande et que je vais aller couper du bois dans la forêt, etc. Je veux dire, ça n'est pas vrai, donc je peux pas dire ça. Et je vois bien en plus qu'il y a évidemment mille fois pire que moi dans la société. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour résumer ce que j'ai dit, la première idée, hein, c'est qu'évidemment, l'inflation, c'est la hausse des prix. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qui peut augmenter son prix et qui peut pas augmenter son prix. Le deuxième point, c'est que la particularité de la situation actuelle, c'est un prélèvement extérieur. Et que donc, nous, la France, collectivement, on est quasiment que des perdants. Et donc, la question, c'est comment répartir cette charge. Et la troisième idée, c'est que ce qui nous arrive... Ce qui est un hasard total de l'histoire, que ce qui nous arrive avec la crise ukrainienne, c'est qu'un avant-goût de la gigantesque crise écologique qui est devant nous et qui va, voilà, vraiment, qui remet en cause absolument tout le confort et tous les gains très réels de qualité de vie qu'on a vécu ces dernières décennies dans un pays comme la France. Et donc, je pense que c'est important de le savoir et de réfléchir à ça. Et après, évidemment, chacun, ça n'empêche pas du tout d'être heureux, etc. Mais en tout cas, moi, c'est le regard que je pense sur la situation actuelle. Voilà.
Est-ce que, Gilles, au niveau de l'exposé, tu veux qu'on passe directement aux questions, parce que ça commence déjà à bien fuser.
Ah ouais, bien sûr.
Ce que je te propose, c'est que, moi, j'étais en train un peu de lire, c'est globalement toutes les questions, ça part pas dans tous les sens, mais je vais commencer déjà peut-être juste, je me permets, par peut-être la question de HK, que je trouve qui est bien, je pense, pour commencer. Une question de type général, y a-t-il plusieurs types d'inflation selon toi? Et une deuxième question, qu'est-ce que signifie de manière profonde le PIB?
Ah ouais, ah bon, je vais commencer par la deuxième qui est plus facile. Alors le PIB, donc, c'est le produit intérieur brut. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait, par exemple, pourquoi on dit brut? C'est un truc super technique que je vais vous dire et que vous n'allez pas comprendre, mais ça n'a aucune importance, c'est qu'on prend, on ne prend pas en compte, enfin si vous allez, pardon, vous allez comprendre. C'est que donc, le produit intérieur brut, on considère donc c'est les nouvelles en fait richesses qui sont créées chaque année. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le PIB, c'est ce qu'on appelle nous les économistes un flux. Hein, c'est comme votre salaire qui arrive tous les mois, c'est un flux. Alors que par contre, si vous touchez un héritage une fois de vos parents, de vos grands-parents, ça c'est un stock parce que ça bouge pas. D'accord. Donc le PIB, c'est une nouvelle production de richesse qui est en général calculée sur l'année. Et donc brut, ça renvoie au fait qu'on ne prend pas en compte le nécessaire remplacement des machines. C'est-à-dire qu'on sait que voilà, quand vous utilisez des choses pour produire tous les ans, il y a des machines, hein, qui s'usent, il y a des ordinateurs qu'il faut remplacer, il y a des camions, etc. Et donc tout ce stock de capital, il faut le remplacer pour continuer à produire la même chose l'année prochaine. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la dépréciation du capital. Et donc je ne sais pas pourquoi, mais par habitude, donc on mesure le produit intérieur brut, même si les statisticiens calculent aussi le produit intérieur net, on a enlevé justement la dépréciation du capital, mais qui est assez difficile à mesurer. Bref. Donc le produit intérieur brut, c'est, donc la définition, c'est que c'est la somme des valeurs ajoutées qui sont produites par les entreprises. Alors vous savez, ce terme de valeur ajoutée, on le connaît tous à cause de la TVA, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée. Là, pour une fois, c'est un terme qui est assez transparent, puisque la valeur ajoutée, hein, c'est la valeur qui est ajoutée par une entreprise dans son processus de production. C'est-à-dire que typiquement, si vous prenez Renault, d'un côté, va acheter des pièces détachées, des moteurs et tout. Et puis moi, je vais acheter une voiture. Je ne vais pas acheter des pièces détachées, vous voyez, séparées les unes des autres. Bah, la différence entre la valeur de la voiture et la valeur de tous ses composants, bah, c'est la valeur qui a été ajoutée par Renault. Parce qu'effectivement, Renault me rend un grand service, hein, que je n'ai pas allé dans 200 endroits pour aller acheter ici une boîte de vitesse, ici des pneus, et puis surtout savoir comment mettre tout ça pour faire une voiture. Donc la valeur ajoutée par Renault, c'est la différence entre la valeur, le prix auquel elle me vend la voiture et tout ce que Renault a dépensé pour construire la voiture. Et donc ensuite on fait la somme de toutes ces valeurs ajoutées. C'est comme ça qu'on arrive au produit intérieur brut. Il y a une erreur importante à ne pas commettre, c'est que ce produit intérieur brut, je pourrais expliquer après dans les détails, mais ça peut être un peu soporifique, il prend en compte le travail des fonctionnaires et il prend même en compte le travail des associations. Donc les gens, comme je le vois parfois dire, qui disent le PIB c'est que l'économie privée, ça c'est faux, ça c'est vraiment faux. Et donc, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait, donc ça, évidemment, il y a des conventions statistiques, puisque bon, les profs, les médecins, on vend rien, donc il n'y a pas de valeur ajoutée monétaire. Et donc, on considère, par convention statistique, ça c'est au niveau international, tous les pays font pareil, on considère qu'en fait, la valeur ajoutée, ben, typiquement d'un enseignant, c'est son salaire. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, les associations, voilà, les mutuelles et tout ça est pris en compte dans le PIB. Maintenant, pour revenir à la première question, c'est vrai que oui, il y a plein de types d'inflation, c'est une très bonne question. Et notamment, ce qui est gênant, c'est que dans le débat public, en fait, on. D'ailleurs, ils le disent beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, j'ai déjà remarqué ça en Angleterre, aux États-Unis, parce que eux, ils disent bien c'est l'indice des prix à la consommation. D'accord ? Alors que nous, on dit juste inflation. Inflation, faut savoir que c'est un mot anglais hein, qui veut dire gonflement, puisque c'est inflate, donc ça ne veut quand même pas dire grand-chose. Et une des pires erreurs de politique économique des dernières décennies, ça a été justement de ne pas s'intéresser à la hausse du prix du logement. Puisque, comme je l'avais déjà expliqué effectivement la dernière fois à Thinkerview, ça n'est pas pris en compte dans l'indice des prix à la consommation. Et de même que, par exemple, les cours de bourse, hein, François Ruffin, par exemple, régulièrement, il dit, mais indexons les salaires des salariés sur les cours de bourse, etc. Ben, les cours de bourse n'est pas aussi considéré comme une inflation. Alors, pourquoi ? Bon, là, toujours parler d'économie, les questions sont simples, mais les réponses sont très longues. Si je simplifie, l'idée, c'est que en fait, on se place du point de vue, si vous voulez vraiment, là, il faut vraiment se mettre du point de vue du ministre de l'économie. Et quand vous êtes le ministre de l'économie, voilà, vous gérez l'économie au jour le jour, et vous voulez savoir comment évolue le prix des biens que les gens achètent toujours, tous les jours, quoi, le prix du café, du coiffeur, du garagiste, tout ça, de la bouffe chez Carrefour. Et en fait, justement, l'héritage des années 70, c'est ce qui est drôle. De certaine manière, c'est qu'on revient exactement à ces mêmes questionnements avec la crise en Ukraine. C'est que la terreur des ministres de l'économie, c'est de dire si le prix des biens courants va trop augmenter, il va y avoir des revendications salariales qui vont aboutir. Donc, il va y avoir une hausse des salaires. La hausse des salaires va augmenter les coûts de production des entreprises. Et donc, les entreprises vont se rattraper en augmentant leur prix de vente. Et donc, on sera rentré dans la fameuse spirale prix-salaire qu'on ne pourra plus jamais arrêter. Donc en fait, il y a cette terreur qui est largement infondée, mais qui, si vous voulez, qui existe, qui est tellement dans le crâne des gens qui dirigent les banques centrales, des gens qui dirigent les ministères de l'économie partout dans le monde. Pour eux, c'est tellement évident, cette panique-là. Et si vous voulez, on n'est pas dans la rationalité, c'est ce qu'expliquait toujours Bernard Maris, mais il faut bien comprendre que il faut observer ça comme un phénomène social, et les croyances de ces gens-là, malheureusement, c'est ça qui guide nos vies. Donc on peut dire que ce qu'ils pensent est débile, mais le fait est qu'ils pensent ce qu'ils pensent et que ni vous ni moi, on ne peut pas le changer. Et donc, eux, ils sont focalisés effectivement sur cette inflation-là, pour les raisons qu'on vient de décrire, avec en plus, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez le malheur d'écouter Bruno Le Maire, ce truc très très bizarre et très contradictoire chez des gens qui se prétendent libéraux, même si c'est un terme qui, je pense, est très faux, de l'obsession de battre les autres. C'est-à-dire qu'il y a un nationalisme économique chez Bruno Le Maire. En permanence, il nous dit « Regardez, l'inflation, elle est plus faible en France qu'ailleurs. Par contre, les prélèvements obligatoires, ils sont plus forts en France qu'ailleurs. » Et donc, il y a cette idée qu'il ne faut surtout pas avoir une boucle prix-salaire plus forte dans votre pays que chez les autres, parce que les autres, c'est les ennemis qu'il faut battre. Et vous voyez que s'il y a un emballement prix-salaire en France, on va être moins compétitif. Et donc, moi, les trucs qui me rendent dingue depuis toujours, c'est que soi-disant, on fait l'Union européenne, il y a comme le terme union, et en fait, on voit au quotidien, les mêmes qui vous font des grands laïus sur l'Europe avec les violons et tout, ils voient qu'ils sont obsédés que le fait de battre l'Allemagne, etc. Ça, c'est un truc qui m'a toujours vraiment rendu dingue. Donc voilà, la raison pour laquelle on se focalise sur cet indice des prix à la consommation, c'est ce pilotage de la politique économique et ce souci de préserver la compétitivité. Après, pourquoi est-ce que, par exemple, les banques centrales et les ministres du Trésor ne s'intéressent pas du tout au prix du logement ? Ben, c'est parce qu'ils pensent que, justement, même s'il y a une très forte hausse du prix du logement, ça n'aura pas d'effet sur les salaires, donc sur les coûts de production, donc ils s'en foutent. Et parce qu'ils ne s'intéressent pas trop aux conditions de vie de la population. Mais là, maintenant, on voit aujourd'hui que ça a été une erreur colossale, avec le truc anecdotique, mais pas si anecdotique que ça, là, des saisonniers, pour qui ça n'a juste plus aucun intérêt de bosser, puisque leur salaire est égal au loyer. Et là, on se dit, ah bah oui, tiens, finalement, quand même, le coût du logement, ça pose un problème. Mais c'est toujours pareil, c'est quand ça touche les entreprises que le ministre de l'économie se réveille. Mais tant que ça touche que les gens ordinaires, eh ben, il ne se réveille pas.
Ok, j'en profite. Alors, je continue avec toujours. Alors, c'est la continuité un peu des questions d'HK. Est-ce que, du coup, le PIB est un indicateur encore pertinent? Et question secondaire, est-ce qu'on va aller dans une économie de guerre, comme l'a dit le président?
Ouais, moi, je suis assez partagé sur ces trucs de. Donc moi, ça vous dira peut-être rien, mais je tiens à le dire parce que c'est vraiment quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Moi, je suis un disciple de Jean Gadret, qui a tenu pendant des années et des années un blog absolument extraordinaire sur le site d'Alternative Économique. Il a écrit des centaines d'articles, ils y sont toujours, ils ont toujours été en accès libre. Et lui, il a été un des premiers, effectivement, à critiquer l'utilisation de l'indice du PIB. Et l'avantage, c'est que lui, c'est un mathématicien, un statisticien à la base, et donc lui, il sait de quoi il parle, ce qui est quand même toujours agréable. Et donc je pense qu'effectivement, cette revendication de la mise en cause de l'objectif de croissance est tout à fait juste. Par contre, le PIB, si vous voulez, on ne peut pas... les trois critiques qui sont faites au PIB, donc, tout ça est évidemment expliqué dans mon dernier livre, mais les trois critiques qu'on fait au PIB, c'est que d'une part, il ne prend absolument pas en compte la nature, effectivement, pas du tout. D'autre part, il ne prend pas du tout en compte le niveau des inégalités dans un pays. C'est-à-dire qu'on s'intéresse juste à savoir si la production de richesse augmente d'une année sur l'autre, mais pas du tout à la façon dont elle est distribuée. Et la troisième critique, je trouve la troisième critique du PIB, c'est que ça ne prend pas en compte les activités bénévoles. C'est-à-dire que je vous ai dit, ça prend en compte les activités des associations parce qu'elles vont avoir une dimension monétaire, elles vont vendre des choses, en fait, alors que... Si vous faites des activités totalement bénévoles, évidemment, ça ne va pas être pris en compte dans le PIB. Mais cela dit, les gens qui ont construit le... D'où est-ce que ça vient, le PIB? En fait, le PIB, il vient de la crise de 1929. Jusqu'aux années 1930, le ministre de l'économie, en fait, il ne connaissait pas l'activité de l'économie. Parce que c'est très compliqué de savoir ce qui se passe. Comment vous savez ce qui se passe dans les millions d'entreprises du pays? C'est ultra compliqué. Il faut un appareil statistique de dingue pour le savoir. Et donc, quand on a créé la comptabilité nationale... un national, pas étatique, c'est de dire on veut savoir ce qui se passe dans la nation. On veut savoir comment, qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui circule, les impôts, les taxes, les profits, les salaires, etc. Et donc les gens qui ont créé ça, c'est quand même un outil absolument prodigieux que n'ont pas, par exemple, ou pas avec notre degré de précision, les pays qui sont plus pauvres. Voilà, ils avaient un objectif qui était très clair. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à reprocher au PIB. Par contre, ce qui est certain... C'est que c'est vrai que moi, comme plein de gens ici, j'imagine, je deviens fou devant ma télé quand je vois le maire et tous les autres et tous les patrons qui continuent à nous parler de croissance. Ça c'est vrai que c'est complètement, c'est complètement délirant. Mais si vous voulez, le PIB ne fait que mesurer, voilà, encore une fois, le niveau de l'activité économique dans un pays. Et c'est vrai que malheureusement, moi, mes collègues économistes, même dans des universités prestigieuses et tout, par exemple, continuent à nous fatiguer parce que, par exemple, le PIB... par habitant, qui est la bonne mesure, évidemment, il faut diviser par le nombre d'habitants. Par exemple, le PIB par habitant est plus faible en France qu'aux États-Unis. Voilà. Et donc, ça, c'est un des trucs les pires. Ils nous disent, il faut mettre en place, il faut faire comme les Américains, il faut libéraliser encore plus la bourse, les marchés financiers, faciliter les licenciements pour avoir des PIB par habitant aux États-Unis. Et ces mecs-là, moi, quand je vois dans les conférences et tout ça, je dis, mais tu voudrais vivre aux États-Unis avec la violence, avec l'assurance santé privée, avec l'éducation privée, avec... Évidemment que non. Mais non, ces mêmes personnes-là, si vous voulez, qui en tant qu'être humain n'ont aucune envie de vivre aux États-Unis, parce que d'ailleurs, eux, ils le pourraient en plus, si vous voulez, de dire, vas-y, mon ami. Ils utilisent cet indicateur complètement bidon pour justifier des réformes atroces en France, dont eux, ils ont juste envie, sachant que eux, par ailleurs, ils sont toujours fonctionnaires. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, et ça, c'est un des trucs contre lesquels je vous mets en garde, c'est qu'à peu près 100% des comparaisons internationales sont complètement pourries. Notamment parce que dans la plupart des cas, les gens qui vous disent c'est mieux en Allemagne, ils connaissent rien de l'Allemagne. Et souvent même déjà, ils connaissent très peu ce qui se passe en France. Donc de ce point de vue-là, effectivement, le PIB est catastrophique. Mais honnêtement, c'est pas de la faute du PIB lui-même, c'est l'usage qu'en est fait. Quoi.
Justement, j'en profite. Alors ça, c'est moi plutôt qui pose la question, parce que tu l'as abordé. Comment est traité pour toi le sujet de l'inflation de l'économie dans nos médias classiques? Et trouves-tu suffisant le niveau des débats?
Écoute, là, je vais te répéter ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que, parce que c'est vrai que en fait, c'est un truc que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, avec mes étudiants, et puis en participant de plus en plus à des trucs médiatiques, c'est-à-dire que, même moi, qui bouffe ça depuis 20 ans, j'ai une connaissance très limitée de l'économie, c'est-à-dire que si tu me poses des questions un peu précises sur le fonctionnement des entreprises et tout ça, je ne peux pas te répondre. Et c'est vrai que c'est complètement fou, dans un pays comme la France, où on passe notre cul sur la chaise à l'école de 9h à 17h tous les jours, de 6 ans à 25 ans, voilà, tu peux faire ça, et la grande, enfin, quasiment la quasi-totalité des élèves en France vont faire ça, et à aucun moment, par exemple, ce que j'ai dit sur le PIB va leur être présenté. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là que c'est, pour moi c'est terrifiant, c'est que ça, c'est évidemment vrai des mecs qui sont à Merci, c'est vrai des journalistes économiques. Et c'est, évidemment, il y a des gags absolus, comme le mec là, François Langlais de TF1, qui fait des erreurs, mais vraiment, mais grotesques de définition économique, et qui est sur TF1 et qui s'adresse à des millions de gens tous les jours. Donc ça, c'est... Et moi, vraiment, ça m'a choqué. En allant à BFM, au début, je bossais à fond les émissions et tout. Bon, les patrons laissent tomber, mais même, ça vous dira rien, mais des gens que moi, je respectais vachement dans ma profession, où moi, je suis vraiment un nobody total, et des gens voilà, influents, prestigieux, écoutés, etc., qui, sortis de leur domaine de compétences et encore, qui sortent des énormités. Donc là, il y a un problème collectif monstrueux, et ça m'étonne toujours qu'il n'y ait toujours pas de médias. Salomé Saké, elle finalement qui a le plus fait en France depuis je sais pas quand pour la vulgarisation économique avec toutes ses interviews sur Blast, mais effectivement, en fait, ça n'est pas possible, mais je veux dire pour vous malheureusement, enfin ça n'est pas possible d'avoir un débat économique de qualité à partir du moment tant qu'on n'aura pas des émissions où on prend le temps et ça prend du temps, il faut faire ça bien de façon marrante, etc. Mais aujourd'hui justement il y a plein de gens qui savent le faire, donc ça me rend dingue qu'on le fasse pas, sur voilà, ce que c'est que le PIB, ce que c'est que l'inflation, ce que c'est que la dette publique, etc. Mais tout ça, ça prend du temps, donc évidemment que le débat actuel est hyper mauvais. Et moi, le truc, mon obsession des derniers mois, c'est qu'en fait Bruno Le Maire est en train de, et Emmanuel Macron sont vraiment en train de piller notre État comme absolument personne avant eux. Et ça, pour moi, c'est le problème de l'information économique aujourd'hui. Donc, comme je suis très présent sur Twitter, j'ai fini par discuter avec pas mal de journalistes économiques en France, de différents médias. Je leur pose la question en permanence et je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un aveuglement collectif, mais effectivement, il faut que vous sachiez que, en ce moment, Bruno Le Maire est en train de vous faire les poches, mais d'une façon hallucinante. Pour soutenir les entreprises, pour nous soutenir quand on va polluer, quand on va acheter de l'essence pour notre bagnole, et que le même Bruno Le Maire, hein, dont je rappelle qu'il est quand même totalement de droite et qu'il n'a jamais changé, qui nous a fatigués pendant des années sur l'équilibre des comptes publics, que la dette publique c'était le problème numéro un du pays, etc., hors Covid, est en train de... Enfin, juste pour donner un chiffre, donc la dette publique de la France aujourd'hui, c'est 3000 milliards d'euros, d'accord ? Et le budget de l'État, chaque année, c'est 300 milliards d'euros. D'accord ? Donc 3000 milliards et 300 de budget de l'État. C'est-à-dire, même si c'est une simplification énorme que je fais là, que pour rembourser la dette, il faudrait pendant 10 ans, la totalité du budget de l'État soit consacrée au remboursement de la dette. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous payez zéro policier, zéro infirmière, zéro enseignant, etc. etc. Donc vous voyez quand même l'ampleur du truc. Et... Il y a un piège, effectivement, qui va se refermer sur nous, mais qui va être monstrueux, c'est que les taux d'intérêt ont été très très bas pendant des années, suite à la décision de la politique de la Banque Centrale Européenne en 2012, d'aider massivement les États à s'endetter face à la crise de 2008. Bon. Et maintenant, du fait de l'inflation, et du fait, là encore, des mauvaises croyances des gens qui sont dans les banques centrales européennes et de leur panique vis-à-vis de la boucle prix-salaire, vous savez peut-être, les taux d'intérêt décidés par les banques centrales, là aussi c'est un truc très particulier, les taux d'intérêt, ont déjà commencé à augmenter. Et vu qu'ils ont été à zéro pendant des années, si vous voyez, il n'y a pas quand même besoin d'avoir une thèse en économie, il faut savoir que si le taux d'intérêt est à zéro, à l'avenir, il ne peut qu'augmenter. Vous voyez, c'est quand même assez simple à comprendre. Et donc... les taux d'intérêt vont augmenter, et après, il y a un effet, vous savez, boule de neige, qui fait que quand le taux d'intérêt augmente sur une dette qui est très élevée, évidemment, ça augmente beaucoup le coût de la dette, et donc ça augmente la dette, et donc ça augmente le coût de la dette. Et là, on a vraiment devant nous, autant la spirale prix-salaire, c'est certain qu'elle n'aura pas lieu, autant devant nous, on a un effet boule de neige sur la dette qui va être terrible, et qui va faire que, pas tout de suite, mais dans quelques années, nous, l'État français, devra rembourser tous les ans peut-être 50 milliards d'euros de dette qu'est le budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on va dépenser autant tous les ans pour rembourser la dette publique que pour payer les 900 000 enseignants du pays, hein, en école maternelle, au primaire, au collège, au lycée. C'est complètement fou. Et le pire, c'est que c'est de la hyper mauvaise dette, parce que ça serait de la dette pour rénover les bâtiments et tout ça, il n'y aura aucun problème. C'est de la dette qui donc, je vous dis, soit c'est pour littéralement qu'on brûle la planète en allant faire le plein avec nos bagnoles, soit c'est de l'argent qui est donné aux entreprises, hein, et évidemment proportionnellement aux plus grandes d'entre elles, pour faire n'importe quoi avec. Et je ne connais pas, depuis que je suis l'économie, depuis que je suis étudiant, j'ai jamais vu une politique aussi irresponsable. Et ça serait un gouvernement qui s'afficherait de gauche, qui ferait la moitié de ça, mais il ne pourrait pas le faire. Ils se feraient hurler dessus à la télé, à la radio tous les jours, ils auraient toute la presse économique contre eux, ils ne pourraient pas le faire. Les marchés financiers attaqueraient la dette française, etc. Et là, parce que c'est un grand mec blanc dont apparemment beaucoup de gens trouvent qu'il a une belle gueule et qu'il parle de façon hyper péremptoire avec sa cravate et ses petits cheveux courts de premier communion, et ben voilà, ça inspire la confiance que Macron, c'est un Mozart de la finance. Mais je vous dis, alors là, on peut donner rendez-vous dans 5 ou 10 ans. La façon dont il pille notre État est absolument, mais sans précédent d'un point de vue quantitatif, en termes de centaines de milliards. Et c'est évidemment nous qui allons le payer dans les années qui viennent. Là, ce qui se passe, pour moi, c'est ça le drame de l'information économique actuelle. Et encore une fois, c'est quand même très facile à voir.
Alors, ça tombe bien parce que ça rejoint la question de Zilote. Je te la lis. Les crises n'étaient pas prévisibles, mais ce n'est pas le rôle des politiques de prévoir des stratégies en cas de crise majeure, guerre, pandémie, catastrophe naturelle. N'y a-t-il pas un problème de résilience de notre système économique ?
Si, c'est sûr. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'avait toujours choqué quand j'étais étudiant en économie. Voilà, j'étais intéressé par les idées de Keynes, et donc Keynes, il a raison dans les années 30 quand il dit, justement, on a une crise économique majeure, c'est en précédent, avec l'effondrement, ça on a tous appris au lycée. Et là, Keynes, parce que c'est un génie et parce qu'il est lucide, il dit, là les amis, il ne faut surtout pas essayer de réduire le déficit public, au contraire, d'une certaine manière, il faut l'aggraver, parce que la seule façon de sauver les entreprises et de sauver la société, c'est le déficit public. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans les années 30, quand Keynes il écrit, il n'y a pas d'assurance chômage. Ce qui fait que la crise des années 30 a été aussi terrible, c'est parce qu'on a laissé faire faillite les banques. Hein, les banques aux États-Unis. C'est-à-dire qu'imaginez aujourd'hui, je sais que c'est une crainte qui existe en France, mais à mon avis qui est totalement infondée. Votre banque, elle fait faillite, c'est-à-dire que tout l'argent là, que vous avez aujourd'hui à la banque, vous l'avez perdu. D'accord ? C'est ça quand une banque fait faillite. Les petits zéros sur votre compte, ça devient qu'un petit zéro tout seul et c'est fini. Bon. Et donc à ce moment-là, Keynes, il dit il faut faire du déficit, il a raison, et on ne l'écoute pas. Et la suite de l'histoire est connue. Le monde développé. Va sombrer dans la dépression économique avec toutes les conséquences qu'on sait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, de ce point de vue-là, Keynes, il avait raison. Et moi, c'est pour ça que je suis lecteur de Keynes. Et de même, quand il y a eu la crise en Grèce il y a quelques années, les gens qui disaient qu'évidemment qu'il ne fallait pas forcer la Grèce à rembourser avaient raison. Bref. Mais ça n'empêche que ça m'avait toujours posé un problème. Les rares fois où la gauche était au pouvoir en France, où on disait, le déficit public, ce n'est pas un problème, parce qu'effectivement, ce qui est vrai, quand l'État dépense, j'aime répéter ça, toute dépense publique, c'est une recette privée. Toujours. C'est pas possible autrement. C'est-à-dire que, quand l'État me verse mon salaire, si l'État rénove un lycée, etc., ça fait du travail pour une entreprise, etc. Donc, c'est vrai que toute dépense publique, c'est toujours une recette privée, ce que vous n'allez jamais entendre, effectivement, dans les grands médias, mais donc c'est important de le rappeler. Mais ça n'empêche que tous ces gouvernements qui sont succédés et qui font que depuis 1974, on n'a jamais eu un budget à l'équilibre en France, c'est une des raisons, alors il y en a plein, ça serait trop long d'expliquer, mais c'est une des raisons qui fait qu'on se retrouve face à cette immense dette publique qui, effectivement, est un grand facteur de vulnérabilité. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est beaucoup plus fondamental, et c'est là qu'il y a une folie, mais vraiment une folie, dans les années 1980, avec la révolution conservatrice, qui, à mon avis, est un bien meilleur terme que le terme néolibéralisme, mais on peut en discuter si vous voulez, c'est que cette révolution conservatrice, elle va revendiquer le fait d'affaiblir les États. C'est-à-dire, elle va revendiquer le fait d'affaiblir toutes les productions, toutes les protections collectives, parce qu'elle estime, hein, c'est la fameuse phrase de Reagan qui change le monde, hein, sans exagérer, quand il nous dit « l'État n'est pas la solution, c'est le problème ». Et en fait, quand Reagan dit ça en 1980, il faut savoir que même aux États-Unis, vous avez encore une très forte tradition, y compris dans les départements d'économie, de dire « le marché, c'est le problème », et l'État va plus ou moins bien résoudre les différents problèmes posés par le marché, typiquement le chômage, mais aussi la pollution, les inégalités, etc. Donc, c'était ça les cours d'économie classiques. Vous voyez, et Reagan, il change complètement la perspective. Et là, il y a toute une philosophie, en fait, de comptoir qui n'a plus rien à voir avec l'économie, qui est une espèce de truc très, très religieux. Et le fait, hein, ça a beaucoup été expliqué, que toutes ces... Toutes ces personnes sont très croyantes, hein, ça joue beaucoup de rôle, ça, que ce soit la protestante Margaret Thatcher, que ce soit Ronald Reagan, que ce soit Jacques Delors, aussi grand catholique français, tous ces gens-là, ils aiment beaucoup la souffrance, enfin, surtout pour les autres, hein, mais ils sont dans ce truc quand même limite mystique, et donc il y a cette idée qu'il faut arrêter, vous voyez, l'assistanat, qu'il faut arrêter d'aider les gens, que l'État gêne l'initiative individuelle, mais il y a vraiment un truc beaucoup plus philosophique que ça, qui est de dire que les marchés, qu'est-ce que c'est les marchés finalement ? Les marchés, c'est l'expression de la volonté collective. Donc en fait, il y a un retournement qui est assez excitant d'un point de vue intellectuel, c'est de dire les marchés, c'est la démocratie. C'est la plus grande démocratie qu'on puisse imaginer, avec ce fameux parallèle qui est développé beaucoup à l'époque, que eh ben, quand je consomme, je vote. D'accord ? Donc c'est-à-dire que voilà, si j'ai envie d'être sympa, je vais acheter local, je vais acheter équitable, etc. Puis si j'ai envie d'être un gros porc, eh ben, je vais aller acheter des trucs faits en Chine à un prix ridicule, etc. Donc, les marchés, c'est la démocratie, alors que l'État, et c'est là que le renversement est total et je pense même limite impossible à comprendre pour beaucoup de gens en France, notamment des gens qui se croient libéraux parmi le personnel politique, c'est que l'État va être vu comme le défenseur d'un intérêt particulier ou des intérêts particuliers. C'est-à-dire que l'État, on va estimer qu'il est dans une logique clientéliste. Hein, donc l'État, ben voilà, il va chouchouter ses petits fonctionnaires, il va filer de la thune aux chômeurs, ou comme on le voit actuellement, par exemple, on a un État clientéliste très net avec les retraités. Hein, on sait qu'Emmanuel Macron aime beaucoup les personnes âgées, et donc là, on a une politique hallucinante en faveur des retraités en France. Voilà. Bon. Mais il y a cette idée, vous voyez, il y a une revendication de fragiliser l'État, parce que voilà, l'État est trop fort, hein, c'est tous les parallèles avec l'Union soviétique ou avec le Léviathan de Hobbes, si vous voulez. Et donc il y a cette idée que le côté, ça c'est un tournant très profond, en plus aussi dans les sciences sociales dans les années 1980, il y a cette idée du retour de l'individu, et que tout ce qui est horizontal, tout ce qui est décentralisé, vous voyez, ce que vous êtes peut-être un certain nombre ici à beaucoup aimer chez Internet, le fait qu'il n'y ait pas de centre, qu'il n'y ait pas de hiérarchie, etc., qui sont des idées hyper intéressantes d'un point de vue philosophique, que tout ça va contester l'organisation bureaucratique verticale de l'État, et donc on va vraiment très méthodiquement affaiblir l'État. Il faut, dans les années 80, vous avez des services publics, des entreprises publiques partout dans le monde, il faut bien comprendre ça, aux États-Unis y compris. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un processus massif de privatisation, de mise en concurrence, qui a vraiment été pensé, théorisé, pour vraiment nous lier les mains et nous forcer en fait à faire en quelque sorte les bons choix. Vous voyez, et donc il y a cette idée qu'il ne faut pas que l'État pense comme les Keynésiens l'ont un peu trop facilement pensé, et c'est le truc classique, qu'une école de pensée devient dominante, elle a un peu tendance à devenir conne. Et donc effectivement, comme disent les jeunes maintenant, les Keynésiens ont un peu trop pris la confiance dans les années 60-70 en disant bah, l'État peut régler tous les problèmes, et donc effectivement ce qui n'était pas vrai, ce qui n'a évidemment jamais été vrai, bon, ça s'est passé comme ça. Et donc là, il y a cette revanche vraiment de l'individu, de l'entreprise, des marchés. Et cette fragilisation, elle est vue profondément comme quelque chose qui est juste économiquement, mais aussi qui est juste, je dirais, politiquement. Et là, évidemment, vous avez raison, aujourd'hui, ben, on voit bien avec la nationalisation d'EDF, on a abandonné tous les outils de contrôle de l'économie. Et aujourd'hui, on est complètement à poil et le temps s'accélère. Et évidemment, c'est, juste pour finir, ce terme de construction européenne que je déteste, c'est évidemment une destruction européenne, et toute l'activité de l'Union européenne, et ça vraiment c'est très facile à voir, toute l'activité de l'Union européenne depuis qu'elle existe, c'est évidemment de faire sa guerre contre les États pour prendre sa place, donc en ouvrant les frontières et tout ça, et donc là aussi en créant un monde justement où il n'y a pas de verticalité, hein, comme aime dire Emmanuel Macron, où il n'y a pas de pouvoir qui écrase les autres, où c'est un monde très fluide. Mais voilà, donc très, alors là, libéral pour le coup, là on peut dire ça effectivement, où chacun a une grande liberté, mais on voit qu'aujourd'hui, bah, le prix de cette liberté, de refus des contraintes et de tout ce qui est collectif, c'est une immense vulnérabilité collective, effectivement.
Alors, ça fait rebondir sur deux questions qui se rapprochent un petit peu, celle de Zilote et celle de Akwan. Zilote posait la question sur l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix à cause des facteurs extérieurs. Hausse du coût de l'énergie, conflit Ukraine, Russie, Covid. A-t-on une idée ou quantifié à quel point des personnes profitent de la situation et augmentent leurs prix pour plus de profit ? Et ça rejoint aussi un peu la question de Akwan. Est-ce que le pillage n'est pas une stratégie pour aller vers la privatisation ?
Ouais, j'ai plus de mal à comprendre la deuxième question. La première, alors pour répondre à la première, c'est effectivement, je ne sais pas, puisque c'est la question que tout le monde se pose actuellement. Donc effectivement, il y a des gens qui profitent très fortement de la crise en Ukraine et qui ont même encore plus profité du Covid, c'est notamment les fameux transporteurs maritimes. Où là, pour le coup, c'est un secteur, c'est complètement fou d'ailleurs ce secteur. C'est un secteur complètement. Enfin, c'est même pas que c'est dérégulé, c'est que là, c'est vraiment c'est de l'esclavage moderne. Enfin, je pense que vous connaissez un peu ces histoires avec ces cargos dont, qui n'appartiennent plus à aucun espèce de pays, où il y a des marins de toutes les nationalités, qui n'ont aucune espèce de protection sociale. Enfin, je sais pas si vous avez vu, il y avait ces histoires de régulièrement de marins qui sont plus payés parce que le commanditaire a fait faillite et qui se retrouvent. On doit alors. Au large de Marseille, par exemple, on doit leur amener de la bouffe pour survivre et tout. Enfin, c'est complètement dingue. Enfin, c'est l'exemple typique du truc où, hein, comme vous savez, justement, comme la souveraineté des États, évidemment, ne s'applique pas dans les eaux internationales, on a créé un secteur, mais complètement... Enfin, c'est le Far West le plus total. En plus, extrêmement polluant par ailleurs, bref. Et donc, il se trouve, j'avoue, je ne connaissais pas son existence jusqu'à il y a quelques mois, qu'il y a un transporteur français... Hein, qui s'appelle CGA, je sais plus quoi, CGM ou CNM, ou CGA CNM, qui a fait des profits mais absolument mais dément durant la crise du Covid, parce que bah, comme tout le monde avait du mal à s'approvisionner, et bah, évidemment il est en position de force par rapport à ses clients et il allait au plus offrant, hein, puisque toutes les entreprises, vous savez, vous rappelez, se battaient pour tous les composants industriels ou voilà qui manquaient. Voilà, donc cette entreprise, et ce qui est drôle, ce que je trouve marrant aujourd'hui, c'est que les meilleurs articles que j'ai trouvés sur cette entreprise, c'est sur le site de BFM Business, donc c'est ça que je trouve qui est assez marrant, où on voit que les mecs sont hallucinés des milliards et des milliards de profits qui sont captés par cette entreprise et qui là, effectivement, si vous voulez, du point de vue de la théorie économique, personne ne peut les défendre. C'est-à-dire que là, c'est un pur pouvoir de marché. C'est, voilà, vous êtes dans le désert, vous crevez de flotte, vous crevez, littéralement vous crevez, il y a un mec qui vous vend une bouteille d'eau de 1000 euros, ben vous l'achetez. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, vous êtes mort. Bon, il n'y a personne qui peut dire que c'est juste, que c'est quoi que ce soit. Ça, c'est un pur rapport de pouvoir. Voilà, c'est tout. Donc, il y a ça, il y a évidemment Total, etc. Donc oui, il y a des super profits. Là aussi, je suis un peu obsédé par lui, mais parce que je suis obligé de le lire pour mon travail de journaliste économique tous les jours. Bon, quand Bruno Le Maire, il va à la télé et qu'il dit « je n'aime pas ce terme de super profit et tout », bon, c'est un terme qui est utilisé par le FMI, les institutions internationales, l'OCDE, depuis plusieurs mois, qui appellent à leur taxation. Donc là, c'est vrai que c'est quand même très gênant d'avoir un ministre de l'économie qui dit une énormité pareille et qui n'est pas repris par le journaliste. Enfin là, si vous voulez, ça c'est quand même très très gênant, parce que encore une fois, personne ne peut défendre ça d'aucune manière. Par contre, il y avait la polémique là, qui a été lancée par Michel-Édouard Leclerc sur les prix des industriels de l'alimentation. Ça, j'ai quand même bien le sentiment que là-dessus, soit il a menti, soit il s'est gouré. Et ce que je voudrais rappeler, parce que je sais qu'en France, on aime détester la grande distribution, ce qu'on peut faire, mais il faut savoir que c'est vraiment un des secteurs où les taux de marge sont les plus faibles. Et c'est-à-dire que, et c'est ça, en fait... Et je pense que c'est important de le dire, parce que c'est un des grands paradoxes de l'économie de marché, c'est qu'en fait, si je reste dans ma logique de pouvoir, alors vous allez dire que je suis bizarre, effectivement, je sais, mais moi, quand je vais faire mes courses chez Carrefour, je sais que c'est moi qui exploite Carrefour. Et c'est pas Carrefour qui m'arnaque, c'est moi qui exploite Carrefour, parce que la qualité et la quantité des produits qu'ils m'amènent, le travail qu'ils effectuent est absolument hallucinant. Et en fait, Carrefour... va gagner évidemment beaucoup d'argent parce qu'ils ont beaucoup de magasins et donc sur la masse ça fait des sommes colossales, mais il n'y a quasiment aucune activité, aucune entreprise qui proportionnellement au travail qu'elle fournit gagne aussi peu que Carrefour. Vous voyez, donc c'est ça la difficulté, c'est que si ce système économique qui s'est autant étendu, c'est quand même pas pour rien, hein. Et si, maintenant on revient dessus évidemment, je sais bien, mais si dans la génération de mes parents, les gens ont déserté les petits commerces pour aller dans la grande distribution, c'est bien parce que c'était quand même beaucoup mieux. C'était beaucoup moins cher que vous gagniez du temps et aussi de la qualité. Parce qu'en fait, c'était pas mieux chez votre boucher, etc. C'est pas vrai. Vous voyez ? Et donc, cette idée que les entreprises, en fait, nous grugeraient en permanence, ben, je peux vous dire qu'elle est très fausse. Et c'est notamment pour ça que je peux affirmer qu'il n'y aura pas la spirale prix-salaire. Donc on peut retourner cet argument du point de vue politique, c'est que même s'il y avait des fortes hausses de salaire, ce qui n'aura pas lieu, moi je peux vous dire que par rapport à quand j'étais jeune, la concurrence entre les entreprises est devenue tellement forte aujourd'hui, et nous on peut le faire justement grâce à la magie de la technologie qui change absolument tout avec Internet, nous les consommateurs, nous mettons les entreprises en concurrence les unes avec elles, mais d'une force mais complètement dingue. Et donc si vous voulez... Là où on se fait tromper, c'est qu'on dit les milliards de Nike, etc. Oui, mais les milliards de Nike, ils sont faits sur la planète entière. Et c'est une exception, en fait. Mais la très, très grande majorité des entreprises, Renault, par exemple, si vous voulez, moi, je m'en parlais toujours quand j'étais petit, quand mon père, il a acheté sa R18, il l'a attendu 6 mois. Il a attendu 6 mois parce que la demande était supérieure à l'offre. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils rentrent dans une concession automobile, il faut qu'ils repartent avec la bagnole. Le pouvoir de marché, il est du côté du consommateur. Et c'est bien ça, c'est bien ça la force du marché. Donc il faut bien comprendre que, oui, il y a des phénomènes d'exploitation dans tous les sens, que évidemment, il y a plein de grandes boîtes qui font des trucs dégueulasses, etc. Mais la réalité, et ça je pense que c'est dur à admettre, surtout en France, c'est que la réalité des gens, des cadres, etc., des gens qui vont bien, c'est que eux, l'économie, elle fonctionne vraiment à leur service. Et c'est bien pour ça qu'ils n'ont pas du tout envie que ça s'arrête. C'est que cette économie de consommation, vous voyez, c'est pas le client est roi, mais... c'est quand même beaucoup plus le client est roi qu'il y a 20 ou 30 ans, quand c'était les entreprises qui étaient reines et qu'elles pouvaient nous imposer ce qu'elles voulaient. Et donc, pour revenir sur mon histoire de boucle prix-salaire, parce que je n'ai pas été clair, je m'en rends compte, même si vous avez une forte augmentation des salaires aujourd'hui, la très forte concurrence entre les entreprises, qui est internationale dans en fait énormément de secteurs, fait qu'elles ne pourraient pas répercuter les hausses de salaire. Elles ne pourraient pas les répercuter dans des hausses de prix. Vous voyez ? Si dans les années 70, on a eu une boucle prix-salaire, c'est parce qu'en fait, l'économie française était très peu ouverte. Et que quand Renault augmentait ses salaires, il pouvait augmenter ses prix de vente de ses bagnoles. Si aujourd'hui, Renault augmente les salaires des ouvriers, bon, il n'en reste plus beaucoup, vous me direz, en France, il ne peut pas augmenter d'autant les prix de vente de ses bagnoles. Ce n'est pas possible, parce qu'on ira en acheter d'autres. Vous voyez ? Donc, il faut quand même bien avoir cette idée-là, quoi.
Ça rejoint une question que je vais reposer. Alors, il y avait celle donc de Aquan qui disait « Est-ce que le pillage n'est pas une stratégie pour aller vers la privatisation ?» Je pense que Aquan, c'était le cas de, on va dire, j'imagine, d'Alstom, que, pour donner un exemple. Et une question qui rejoint celle de OTNRV qui, en fait, qui dit « Semer le chaos pour imposer ses règles ne serait pas la loi du marché selon les néolibéraux ?» Point d'interrogation, pardon.
Ouais, je ne sais pas si c'est... Il se trouve que voilà, j'ai passé mon bac en 91 et donc toute cette histoire, et je me suis intéressé à la politique beaucoup trop jeune pour des raisons familiales. Et donc voilà, j'ai des souvenirs de Reagan à la télé, vraiment toute cette histoire, je l'ai vécue. On peut identifier, ce qui va tout à fait dans le sens de la question, c'est qu'on peut identifier des acteurs qui ont pensé. Ce qui est arrivé encore une fois à la planète entière depuis les années 70, c'est notamment Friedrich Hayek. Ah, et la fameuse société du Mont Pèlerin, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et là, il faut bien prendre la mesure des choses. C'est-à-dire que Friedrich Hayek est un Autrichien qui naît au début du XXe siècle. Et le mec, il se fait mettre la misère par Keynes et les idées keynésiennes pendant quasiment toute sa vie. Il est, si vous voulez, en ultra-minorité. Mais il a cette vision, quoi. Il sait qu'il est en minorité et il se dit « il faut que je gagne le combat intellectuel ». Et donc, il s'en donne les moyens. Et donc, il crée évidemment cette société évidemment en Suisse. Il est évidemment rapidement aidé par des milliardaires, etc., y compris avec des gens qui ont un passé pas génial du point de vue de leur goût démocratique. Et cette société du Mont Pèlerin, elle va réunir rapidement quelques-uns des plus grands penseurs, notamment Milton Friedman, qui va être l'économiste le plus important de la seconde moitié du XXe siècle, qui va avoir le prix Nobel d'économie en 1976, qui va faire basculer toute la profession des économistes à l'échelle mondiale, justement dans la critique de l'État. Bref, et donc là, si vous voulez, pour répondre à la question qui n'a pas encore été posée sur du complotisme, là, on a un exemple très clair de gens qui savent ce qu'ils veulent faire, qui savent pourquoi ils veulent faire, et malheureusement pour nous, qu'ils y arrivent. Vous voyez, donc ça, c'est très très rare, en fait, dans l'histoire intellectuelle, d'avoir un projet aussi clair et autant gagné. Cette histoire, elle est absolument fascinante, évidemment. Elle n'est pas du tout enseignée. Et ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, un mec comme Hayek détestait la démocratie. C'est ça, le problème de ces gens-là. C'est que, encore une fois, pour eux, si vous voulez, leur haine... pour eux, vraiment, l'arbitraire est du côté du politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et encore une fois, le marché est ce truc impersonnel. Et vraiment, c'est le plus respectueux de la liberté de chacun. Voilà. Donc là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, et si dans la pensée d'Hayek, c'est assez compliqué, il y a cette idée que le pire, c'est d'essayer d'organiser la société. Encore une fois, le pire, c'est d'essayer d'organiser la société. Et donc Hayek, il vous dit par exemple, si vous voulez mettre en place un service public, imaginons vous n'avez aucun service public, vous mettez en place un service public. Eh bien, il y a des gens qui vont devoir gérer le service public, et puis après, il y a des gens qui vont devoir contrôler le fait que le service public fonctionne bien, puis il y aura des gens qui vont devoir contrôler les contrôleurs, etc. Et dans son livre que je vous conseille, qui est vraiment absolument dingue, qui s'appelle « La route de la servitude », que Hayek écrit en 1941. Donc le titre est très clair, « La route de la servitude ». En fait, Hayek fait une démonstration parfaitement logique, et donc c'est assez terrifiant quand on le lit, parce que c'est dur de ne pas être d'accord avec lui. C'est vraiment une démonstration quasiment mathématique, c'est très bien écrit, c'est assez facile à lire. Et il nous dit, ben, à partir du moment où voyez, vous commencez à créer une bureaucratie, eh ben, la fin, c'est... en fait, il prédit déjà... C'est pour ça que cet ouvrage aura un tel retentissement. Il prédit en fait le stalinisme et les formes les pires du communisme. C'est-à-dire que chez Hayek, l'économie mixte n'est pas possible. Soit c'est le tout marché, soit c'est le tout État qui supprime non seulement la démocratie, mais même les libertés individuelles. Enfin, il n'y a plus de justice. Enfin, voilà. Vraiment le stalinisme, quoi. Les procès, les exécutions, etc. Le goulag, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc, cette pensée complètement folle, mais parfaitement logique d'Hayek, c'est de dire. Si vous voulez créer un ordre artificiel, vous, les êtres humains, eh ben, vous allez aller vers le pire. Et donc, au fait, au contraire, il faut accepter, et c'est là que la pensée du marché d'Hayek est vraiment la plus aboutie de toutes celles qui existent et la plus intéressante, mais les libéraux l'enseignent très peu parce que en fait, elle est beaucoup plus honnête que la version gentille du marché qu'ils essayent de nous vendre en permanence. C'est-à-dire que Hayek, il nous dit, hein, je vais arriver, je sais que c'est un long détour tout ça, mais je vais vraiment répondre précisément à votre question. Donc Hayek, il nous dit, il vaut mieux le chaos, effectivement, que n'importe quel ordre organisé, puisqu'encore une fois, n'importe quel ordre organisé va arriver vers la dictature la plus absolue. Et donc, il nous dit, le marché, c'est le chaos. Et il y a des phrases absolument fabuleuses de Hayek, qui dit, mais évidemment, que le marché n'a rien à voir avec la justice. Il dit, évidemment, que sur le marché, c'est pas la personne qui fait la chose la plus utile ou qui est la plus méritante qui gagne. Il dit, évidemment, ça n'a rien à voir avec ça, le marché. Le marché, c'est du hasard. Et il y a des gens qui sont richissimes en produisant de la merde, et d'autres qui font des trucs géniaux, qui vont dans la pauvreté toute la vie, etc. Il le dit, Hayek, ouais, parce que c'est ça la réalité du marché. Et ça, évidemment, vous n'entendez jamais, vous l'entendez jamais nulle part, mais c'est écrit vraiment. Et donc, il est très honnête par rapport à ça, mais vous voyez, pour lui, ce chaos économique est préférable à toute tentative d'organisation de la société. Donc tout ça, effectivement, ça a été pensé. Après, encore une fois, pour avoir vécu tous ces événements, par exemple, je suis vraiment certain qu'un mec comme Jacques Delors s'est complètement gouré sous ses apparences d'intellectuel, qu'il a vraiment pas compris ce qu'il faisait avec l'Union Européenne. C'est-à-dire que quand il lance l'Union Européenne, ça date de 1957, quand il fait même le marché unique, on peut être très très bien du lancement du marché unique, moi j'étais au collège, j'avais fait une fête pour ça, c'était complètement débile quand on y pense, l'État est encore très fort partout en Europe. Et donc si vous voulez, ces gens-là, et ça, je pense que c'est un truc très courant, je ne suis pas du tout historien, dans l'histoire humaine, c'est que ces gens-là, ils se pensent, et ils ont raison, comme des minoritaires. Ils se pensent comme des gens, si vous voulez, qui sont face à une espèce de montagne qu'ils n'ont aucune chance d'abattre. Et le problème, c'est que, notamment parce que je pense que Delors est français, qu'encore une fois, il fait ça pour des raisons profondément catho, etc., et que Dicone ne comprend pas le marché, c'est ça qui est toujours très agréable quand vous êtes aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, tout le monde comprend ce que c'est que le marché, parce que vous êtes sur le marché en permanence dans tous les aspects de votre vie. Donc, le marché, tout le monde comprend très bien ce que c'est. Et en France, il y a très peu de gens qui comprennent ce que c'est, pour, notamment parce qu'ils en sont totalement immunisés, et notamment tous les gens qui nous dirigent. Bref, Delors, quand il fait son marché unique, je suis certain qu'à aucun moment, il pense qu'il va remettre en cause, par exemple, la sécurité sociale. Ben en fait, vous sachiez qu'il y a eu un moment dans les années 90 où des juristes complètement fous au niveau européen voulaient remettre en cause le monopole de la sécurité sociale au nom de la liberté du marché, etc. Oui. Mais, et donc là, je suis convaincu, mais peut-être que j'ai tort, mais ça, je pense que ça va être dur de me faire changer d'avis là-dessus, que une partie des gens qui ont tout cassé, tout libéralisé, etc., avaient, et y compris pour des bonnes raisons malheureusement, la haine de la bureaucratie publique, des entreprises publiques, parce qu'il y avait aussi quand même des endroits qui faisaient bien chier tout le monde, où les gens travaillaient pas, où les usagers étaient hyper mal servis, les gros services publics tout pourris, etc. Ça existait aussi quand même. Et donc je pense qu'ils se sont dit que voilà, la mondialisation qu'ils avaient vu arriver allait nécessiter des économies plus agiles, plus flexibles, etc. Et je suis vraiment convaincu que tous les hauts fonctionnaires et tout ça qui ont décidé, mis en œuvre ces politiques, pour une large partie d'entre eux, n'imaginaient jamais qu'ensuite ils allaient créer des monstres privés aujourd'hui allaient devenir 100 fois plus gros que les États, se balader d'un pays à l'autre, faire du chantage, l'évasion fiscale, faire n'importe quoi, etc. Je suis convaincu qu'ils étaient dans... En plus, surtout en France, il y a toujours cette illusion que l'État, il est quand même plus fort que les entreprises. Vous voyez, je pense que paradoxalement, cette croyance dans la force de l'État a fait qu'ils ont mis en œuvre des trucs qui leur ont très très rapidement échappé. Il y a cette citation que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, vraiment à laquelle je pense tout le temps, qui est assez célèbre, mais je ne sais plus qui c'est, qui a dit « Les hommes savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce que fait ce qu'ils font. » Voilà. Et ça, moi, je suis... Dans l'économie, ça s'applique exactement ça. C'est-à-dire que quand vous libéralisez un marché, vous savez ce que vous faites, mais ce que cette libéralisation va entraîner, y compris pour vous-même, vous n'en avez aucune idée. Et une fois que le diable est sorti de la boîte, c'est impossible de faire rentrer.
J'en profite, Gilles, c'est juste, je fais une petite régression par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est une remarque, c'est pas une question, c'est une remarque de Tim. Je le lis. Je trouve étonnant de dire que le consommateur fait la loi. Les groupes comme Carrefour ou Renault sont des quasi-monopoles. Une famille pauvre n'a aucun pouvoir discrétionnaire, c'est Lidl ou Aldi, et en plus les bénéfices se diluent au niveau mondial. L'action individuelle n'a aucune conséquence. Est-ce que tu as éventuellement peut-être une précision à apporter?
Si, non, mais je suis...
Pour ajouter au propos, jamais aucune forme de boycott n'a effectivement eu un quelconque effet significatif.
Ouais, c'est vrai, oui. Alors, pour répondre à la première question, je souscris totalement au propos, mais ma réponse, pour essayer de ne pas me contredire totalement, tient au fait que le problème, c'est que cette famille-là a des revenus beaucoup trop insuffisants qui fait qu'il lui reste que le choix entre Aldi et Lidl. Et ça, alors ça, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est que cette famille, elle se fait exploiter dans le domaine du travail. Vous voyez ? Et là, effectivement, la grande force de tous les libéraux, c'est de nous parler toujours que du marché. Et un des principaux problèmes intellectuels et politiques de notre époque, c'est que le travail est absent des médias et de la discussion nationale. Les accidents du travail, les relations de travail, mis à part dans les grèves, et vous savez très bien comment c'est représenté, on n'est toujours que du point de vue d'utilisateur, ce sacré travail où la grande majorité d'entre nous passons nos journées est totalement absent, si vous faites attention, y compris de médias de qualité. C'est très impressionnant. C'est le truc central, et évidemment la question des salaires, etc. Mais si vous voulez, cette famille-là, effectivement, elle se retrouve écrasée en tant que consommateur, mais parce qu'en tant que producteur, hein, en fait, il faut, voilà, pour reprendre les termes de Marx, nous, les gens qui travaillons, c'est nous qui produisons la richesse, c'est nous les producteurs, ils se font effectivement totalement exploiter en tant que producteurs. En fait, c'est ça le problème. Mais le problème n'est pas dans leur capacité, effectivement, à ne pas mettre en concurrence les entreprises, c'est qu'ils juste ils crèvent de faim, quoi. C'était quoi votre question? C'était sur... Le boycott, c'est ça. Mais là, par contre, pardon, je pense à plutôt dans mon sens, c'est que, déjà, je suis pas sûr, je crois qu'il y a des boycotts qui ont marché, mais effectivement, vous avez raison, il y en a très peu. Mais effectivement, si ça marche pas, c'est pas parce que les gens ont pas le choix. Ça, je suis pas du tout d'accord. Parce que surtout quand vous êtes en France, vous avez vraiment le choix de mener notre vie. C'est juste, et ça, je pense que c'est très dur pour nous à s'avouer, c'est parce qu'on préfère la consommation. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, quand il y a eu le naufrage de l'Erika. Quand il y a eu le naufrage de l'Erika, je ne sais plus quelle année c'était, le pétrolier, tout le monde a dit on va boycotter Total. C'est très facile de boycotter Total, surtout à l'époque. C'est vraiment très facile. Ben, juste les gens ne l'ont pas fait. Parce que ça nécessitait de se faire un peu chier, chercher où était une station-service, etc. Et que ce satané confort, et ça, c'est une idée que j'ai de plus en plus et qui est très banale, c'est qu'on est en train de quand même bousiller la planète et tout, à cause de ce satané confort. Il y a une force. Encore une fois, je sais très bien que vraiment il y a des millions de gens qui crèvent la dalle, etc. C'est évidemment pas du tout ça dont je parle, mais les gens qui pourraient, parce qu'ils ont du temps libre, parce qu'ils ont accès à leurs élus et tout ça, qui pourraient peser sur le cours des choses, et ben ils préfèrent leur petit confort du quotidien. Et c'est pour ça que la plupart des activités de boycott elles laissent tomber. Mais notamment, moi j'aime pas du tout cette idée qu'en France on serait pas libre, etc. La France, c'est un pays qui est très grand. Vous pouvez, mais encore une fois, je comprends vraiment qu'on n'en ait pas envie, mais vous pouvez vraiment vivre autrement avec, effectivement, de faibles revenus. C'est d'ailleurs c'est ce qu'on font de plus en plus de gens. Mais c'est vrai que c'est hyper violent. Et qu'encore une fois, cette société de consommation, si elle s'est étendue à la totalité de la planète, c'est pas pour rien, quoi. C'est pour des raisons à la fois très connes et très profondes. Et si personne n'y a résisté, encore une fois, c'est pas pour rien. Et ça, je pense que là-dessus, par rapport à ça, il faut être honnête, quoi.
J'en profite, il y avait une question de Jim. Pour juste un peu situer la France par rapport aux autres pays, on est plutôt comment? On est plutôt bon par rapport justement à la crise, à l'inflation qui nous arrive directement. On se situe à peu près comment?
C'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai que l'inflation est moyenne et plus faible en France notamment que dans les autres pays européens aux alentours, du fait notamment de... du blocage du prix de l'électricité, de la subvention à l'essence qu'a mis en place le gouvernement. Voilà, c'est ce que j'expliquais, qui coûte trop cher. Pour élargir le propos, évidemment, ce qui est très fatigant, c'est que, bon, bah, vous le savez sans doute, on est la sixième, ou ça dépend, bon, au pire, la septième puissance économique du monde. Et c'est absolument dingue à quel point un pays aussi riche que le nôtre, on a l'impression, est ballotté d'un problème à un autre, ne maîtrise plus du tout son avenir, est incapable de créer quoi que ce soit. On voit au contraire les trucs se casser la gueule les uns après les autres, les maternités qui ferment, les écoles où il n'y a plus de profs, etc. Et là aussi, pour le coup, tout ça, c'est avant tout dans les têtes. Et là aussi, alors là, vraiment, il y a eu un travail, alors là, j'ai bien vécu. J'ai mal vécu, mais vraiment, j'ai suivi année après année, etc. Et donc, c'est des choses dont je parlais régulièrement avec Bernard Maris quand je le croisais dans les couloirs de la fac, quand on était collègues, c'est qu'il y a eu un travail permanent pour bien nous expliquer que, voilà, les Français, on travaille moins que les autres, on vit au-dessus de nos moyens, on paye plus d'impôts que les autres. Ce qui est complètement fou, parce que la seule question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que ces impôts. Effectivement, les retraites sont plus élevées en France qu'ailleurs, mais pourquoi pas, enfin bref. Et maintenant, tout le monde est convaincu qu'on ne peut rien faire. Et donc, il y a eu ce double mouvement où, d'un côté, effectivement, la capacité d'action collective a été fortement réduite par toutes les privatisations. Mais surtout, il y a ce discours qui est vraiment dans toutes les têtes, y compris de plein de gens qui pensent être de gauche et tout ça, qu'avec la mondialisation, on ne peut rien faire. Et ça renvoie à ce que je disais sur le fait que, quand vous ne connaissez pas, évidemment, le fonctionnement de l'économie parce qu'on ne vous l'a pas appris à l'école et que vous regardez tous les jours à la télé les entreprises qui partent, tel et tel pays où les salaires sont 10 fois plus faibles, etc., ça crée une panique, une espèce de paralysie complète en France et qui a des effets démocratiques absolument terribles, soit évidemment l'abstention, soit les votes pour les fachos et tout, parce que les gens ont envie de maîtriser leur avenir. Et c'est de ce point de vue-là que je trouve que c'est... Donc si on veut les appeler, voilà, ces fameux néolibéraux, ce tournant des années 80 est vraiment... C'est absolument tragique. C'est-à-dire que si vous dites aux gens... Votre vote n'a plus aucune espèce d'importance, et maintenant les gens en France et partout ailleurs l'ont bien compris, c'est quoi l'avenir, quoi. Moi, c'est pour ça que je suis devenu économiste. C'est que je voyais bien, déjà dans les années 80 et 90, le poids croissant que prenait l'économie et les conséquences politiques qui sont désastreuses, mais vraiment au sens très profond du truc, quoi. Et aujourd'hui, on a encore, donc c'est ça qui est paradoxal, un gouvernement qui tape dans la caisse comme personne avant lui, tout en revendiquant le fait de rien pouvoir faire, de rien maîtriser, de demander aucune contrepartie à personne, et surtout pas aux entreprises. Et donc là, en fait, c'est ça qui est fou, qu'on a, en fait, comme on a encore les institutions d'un État riche, on peut se permettre de dépenser l'argent, parce que les États pauvres, ils ne peuvent pas dépenser cet argent parce qu'ils ne l'ont pas, mais on est sur une trajectoire où on est en train de brûler les dernières cartouches, et sans rien mettre en place en face, et donc bientôt on aura perdu sur les deux plans, avec des entreprises effectivement surtout françaises de plus en plus multinationalisées qui n'ont rien à faire de l'économie française, qui touchent des aides dans tous les sens, et des États qui sont de plus en plus pauvres et qui peuvent rien faire, quoi.
Alors, ce que je vais faire, je vais passer exceptionnellement la parole à Sun Tzu, parce que tout simplement il n'a pas de clavier. Du coup, Sun Tzu, tu avais une question à poser, je te laisse la parole.
Ouais, est-ce qu'on m'entend ? Je suis sur écouteur, je ne sais pas si on
m'entend bien. On t'entend bien, il n'y a pas de
souci. J'ai un peu soufflé. La question portait par rapport à la remarque que tu as faite sur l'Union européenne, savoir trouver des choses sans forcément savoir derrière ce qu'elles donnent. J'ai raison, notamment parce que ça pourrait être de s'emparer de certaines choses. Enfin, la question que je me pose, c'est la place des États-Unis là-dedans, qui sont venus aider l'Europe. C'est alors à coûter très cher, et venir aider, partir sans rien laisser sur place, sans laisser une certaine influence sur place, c'est quelque chose qui me paraît difficilement concevable. Je veux savoir la vision que tu as par rapport. C'est une interprétation assez compliquée de l'histoire, les États-Unis sont venus aider l'Europe, et dans quelle mesure, justement, ce qui s'est fait par la suite a été fait sous l'influence de l'Europe, des États-Unis, pardon. Et savoir, justement, si pour toi, dès le début, l'Union européenne avait une vision et une ambition, mais qui n'est pas devenue ce qu'elle était censée avoir initialement. La question, c'est savoir est-ce que c'est initialement l'ambition réelle qui était tout autre, et que ça s'est transformé par la suite, ou est-ce que déjà, dès le début, on peut imaginer le fait que l'Union européenne a été conçue sous l'influence des États-Unis, qui, enfin, l'Europe n'est pas les États-Unis, puis affaiblir, on va dire, le reste du monde quand on est une nation, peut permettre de maintenir une position de force. Voilà, juste savoir, je ne sais pas si la question est claire, je ne sais pas si j'étais très clair.
Si. Non, mais moi, il y a des choses que je sais, il y a d'autres que je ne sais pas. Alors, la première chose que je sais, c'est pas. Et encore une fois, c'est ça que j'aime chez les Américains, c'est que je trouve qu'ils ont un côté quand même qui est hyper facile à lire parce qu'ils ne se cachent pas, enfin je trouve, en tout cas moins que les Européens. Le truc génial, c'est le plan Marshall. Hein, parce que le plan Marshall qu'on a tous étudié à l'école, qu'est-ce que c'est ? C'est, donc en 1945, les États-Unis, qui évidemment n'ont pas subi la guerre, mis à part Pearl Harbor, se retrouvent être la première puissance économique du monde, un territoire... qui n'a évidemment pas été ravagé par la guerre, une capacité de production industrielle complètement délirante, et donc ils doivent se reconvertir en économie de paix. Donc pour eux, c'est la panique de se dire qu'est-ce qui va se passer de toutes ces usines d'armement maintenant que la paix est revenue et tout. Et on a l'Europe d'un autre côté qui est évidemment totalement ravagée. Et là, le coup de génie des Américains, c'est de dire les amis, on va vous filer des milliards et des milliards aux Européens, et avec ces milliards, vous allez nous acheter nos trucs. Donc ça, c'est juste génial. C'est-à-dire qu'effectivement, le plan Marshall, c'est que tu donnes de l'argent à l'Europe pour qu'ils t'achètent ton truc et tu reconvertis tranquillement ton économie de guerre en économie de paix en faisant, des machines à laver, des ordinateurs, enfin j'en sais rien, etc., des bagnoles, et tu les exportes vers l'Europe. Donc ça c'est juste des machines-outils, ça c'est juste parfait du point de vue des Américains. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est sûr que les Américains ne sont jamais cachés du fait que, pour eux, c'est beaucoup plus simple d'exporter vers un marché unifié que vers 25... pays européen avec des législations différentes. Il faut voir qu'à l'époque, il y a encore des taux de change, il y a encore des contrôles douaniers, il y a des normes, etc. Enfin, exporter, c'est compliqué. Alors, encore aujourd'hui, exporter, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Mais ça s'apprend aussi. Mais à l'époque, exporter, c'est vraiment compliqué. Il y a des normes, il y a des dizaines de documents administratifs. Les administrations des douanes, c'est quelque chose de très puissant. Enfin, ça, c'est très compliqué d'exporter, quoi. Donc, ils ont toujours dit, effectivement, les amis européens, si vous aviez un marché unique, ça nous arrangerait. Donc ça c'est la deuxième chose. Et donc, ça, c'est sûr que il y a cette volonté américaine d'avoir face à eux un marché européen unifié. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'effectivement, l'Europe, on peut pas dire que tout était écrit, mais c'est aussi vrai que ça l'était très largement, parce que, par exemple, moi, j'avais lu une biographie de Jean Monnet. C'est drôle, parce qu'en France, Jean Monnet, il est présenté comme l'artisan du plan, ce qu'il a été. Mais quand tu lis la vie de Jean Monnet, il est fils d'un grand négociant de cognac. Il est fasciné par le commerce international et il est totalement fédéraliste. Donc lui, quand il fait la construction européenne, il sait exactement ce qu'il fait et il s'agit effectivement, et il adore les États-Unis. Donc il est vraiment faire les fameux États-Unis d'Europe, c'est-à-dire un truc totalement fédéral, hyper libéral sur le plan économique et tout ça. Donc là, l'influence et la fascination américaine est totalement revendiquée et claire. Enfin, il suffit de lire le bouquin. Et quand tu lis le traité de Rome de 1957, évidemment, le tout marché est déjà là. Donc, effectivement, l'Europe, il n'y a pas de... Toute cette histoire, mais insupportable, maintenant, j'en ai bouffé pendant des années, maintenant c'est enfin fini sur l'Europe sociale, etc. Mais c'est vraiment de la flûte incroyable, et c'est hallucinant, tous les journalistes qu'on répète, même l'Europe de la défense, quoi. L'Europe de la défense, ça n'existe, mais juste absolument pas dans les faits. Et l'Europe sociale, encore moins. Et quand tu lis les traités européens, c'est bien justement ce qui a été rejeté en 2005 pour les personnes qui s'en souviennent, c'est parce que justement, à chaque phrase, ils nous disaient la concurrence, et que c'est littéralement à germer. Donc tout ça, c'est quand même très très clair, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté là-dessus. Et il y a d'ailleurs, moi, j'enseigne dans un institut d'études européennes. J'ai des étudiants de tout un tas de pays européens. J'ai voyagé dans plusieurs pays européens. Il n'y a absolument que en France qu'il y a un débat sur la nature de la fameuse construction européenne. On est le seul pays où on a inventé ce débat basé sur absolument rien. Ailleurs, que ce soit pour le critiquer ou l'approuver, tout le monde est très très clair que l'Europe, c'est juste un marché et puis c'est tout. Hein. Et nous, en France, on a vraiment cette mauvaise fascination pour la politique, de croire que les hommes politiques peuvent changer les choses et tout, mais partout ailleurs, les gens, ils savent qu'il y a un truc qui existe, qui s'appelle le droit, qui est mis en œuvre par la Cour de justice européenne, à la demande de la Commission ou pas, qui sanctionne, qui interdit les fusions, etc., qui interdit les aides d'État, et qui est basé sur des traités qui sont limpides, et qui parlent de la concurrence à chaque page. Donc, si vous voulez, ce débat sur l'Union européenne, C'est par ailleurs une création française, c'est ça toute l'ironie du truc, puisque les grands artisans de l'Europe telle qu'on la connaît, c'est François Mitterrand, Jacques Delors et son directeur de cabinet, surtout Pascal Lamy, dans les années 80. Effectivement, c'était une création française, mais toute cette histoire d'Europe politique et tout ça, bon, évidemment, le pire, c'est les Allemands, mais ils se tapent sur les cuisses quand vous leur en parlez, mais ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Après, ils font semblant devant les caméras parce qu'ils savent que c'est important pour leurs homologues français. Il faut savoir, par exemple, qu'en Allemagne, le terme couple franco-allemand n'existe pas. Hein, ce terme n'existait n'est utilisé qu'en France. Voilà, il y a un aveuglement sur l'Europe qui est absolument prodigieux. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que le seul bémol par rapport à ça, mais qui est léger, c'est que par contre, effectivement, quand on a créé l'euro, hein, donc qui est créé en 1999 et qui rentre en vigueur en 2002, là par contre, il y avait effectivement la volonté des Européens, mais pour des raisons, je dirais, mercantiles et surtout d'abord des Allemands, de s'opposer au dollar. Ça, c'est clair. Donc là, par contre, les textes de l'époque sont très, très clairs. Et là, il y avait un consensus des Européens en disant « On en a marre que, justement, on ne rentre pas dans les détails, que la valeur de nos exportations soit soumise aux fluctuations du dollar. Et on veut pouvoir avoir notre propre monnaie pour pouvoir gérer notre commerce comme on le veut, etc. » Donc là, si vous voulez, c'était un signe de relative indépendance de l'Union Européenne face au dollar, mais je dirais pour des raisons pas techniques, mais... de maîtrise du commerce extérieur. Et là encore, il n'y a que en France qu'on nous a vendu, moi je m'en veux parce que j'y ai cru en partie, qu'on nous a vendu cette histoire que l'euro serait la première étape vers une Europe politique. Il faut savoir que Maastricht en 1992, c'était mon premier vote, et il y avait ces débats stratosphériques où on nous disait que parce qu'on avait une monnaie unique, on allait avoir un gouvernement économique européen et que ça allait cimenter les peuples d'Europe, etc. Et c'est prodigieux le nombre de gens qui ont sincèrement cru à ça. Et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui ont cru à ça, mais encore une fois, parce qu'on ne comprend strictement rien à l'économie en France. Alors que la définition même de l'euro, et là les Allemands savaient exactement ce qu'ils faisaient, c'était justement le fait de créer une monnaie qui échappait aux États et qui est gérée par la Banque Centrale Européenne. Donc là, on a quand même vécu ce moment magique du débat intellectuel au sens large du terme français. Et qui avait de la gueule à l'époque, hein, je veux dire, des gens comme Jean-Pierre Chevènement, ou même Charles Pasqua d'ailleurs, il y avait des réflexions quand même où c'était sérieux, hein, c'était d'un autre niveau que ce qu'on se tape aujourd'hui, mais bref, on a quand même eu ce débat où on nous a fait croire, plein de gens croyaient sincèrement que faire la monnaie unique, c'était unifier les pays d'Europe et créer une espèce de puissance politique européenne, alors que vraiment tout le projet de la monnaie unique, pardon, et qui était explicite à l'époque, assumé, c'était justement, et on revient toujours au même projet néolibéral, si vous voulez, c'était justement de retirer la monnaie des États, parce qu'ils la géraient très mal, pour la confier à une institution totalement indépendante, revendiquée comme non démocratique, qui était la Banque Centrale Européenne. Donc là, si vous voulez, le contresens a été mais absolument total. On l'a vécu pendant des années. Bon, puis maintenant, on a d'autres problèmes à gérer, donc on en parle moins. Mais là, ça a été un moment magique, où vraiment l'inculture économique profonde de nos dirigeants au sens large, c'est totalement vu. Et je pense que les Allemands, qui nous ont tout imposé à ce moment-là, le deal qui a été fait entre François Mitterrand et Helmut Kohl à l'époque, était en plus limpide. Hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, François Mitterrand a les réflexes de mec qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Avec la réunification allemande, il a peur que l'Allemagne bascule à l'Est. Ça, c'était très clair, c'était dit à l'époque et tout. Et donc, il se dit, il faut qu'on ait un projet commun européen pour relancer la construction européenne, en fait, au sens entendu, au sens d'Europe de l'Ouest. Et là, Helmut Kohl, ils se mettent d'accord pour créer cette fameuse monnaie dont les Allemands ne veulent absolument pas. Vous imaginez quand même que les Allemands ont fait une monnaie unique avec des Français. Je ne sais pas si vous imaginez le délire quand vous êtes un peuple aussi rigoureux qui a accumulé les excédents budgétaires, les excédents commerciaux comme l'Allemagne, vous mettez que des pouilleux de Français qui comprennent rien à l'économie, qu'une industrie à l'époque est déjà totalement ravagée, plus du tout compétitive, qui sont en déficit budgétaire permanent. Vous mettez que des Italiens, vous imaginez une seule seconde, créer une monnaie, qui veut créer une monnaie avec des Italiens? Et donc, la population allemande est totalement opposée, évidemment, mais hyper opposée à la création de l'euro. Et là, la force d'Helmut Kohl, je veux dire, en termes objectifs, c'est qu'il va dire à François Mitterrand, écoute, mon ami, mon peuple, est ultra attaché au Deutschmark, mais un point qu'on ne peut pas imaginer, c'est vraiment l'identité allemande de la RFA, de la République fédérale allemande. Il faut savoir que le Deutschmark est créé avant la RFA, après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vraiment au cœur de l'identité allemande, pour tout un tas de raisons historiques. Et donc, Kohl va dire aux Allemands, on va faire la monnaie avec ces gros nuls de Français, mais ça va être à nos conditions. Et donc, ce qu'il va faire, qui est très simple, il va calquer les statuts de la Banque Centrale Européenne exactement sur les statuts de la Bundesbank. Enfin, vraiment, mais tout ça, c'est évident à l'époque, c'est absolument pas caché. Vous voyez, voilà. En disant, on prend toutes les garanties et en gros, on aura un gros Deutsche Mark qui sera l'euro et qu'on gérera comme on voudra. Et c'est effectivement ce qui s'est passé au début. Et c'est en fait, c'est à ça que Mario Draghi, c'est pour ça que c'est aussi célèbre chez les économistes le « whatever it takes » de Mario Draghi en 2012, parce que là, c'est un truc que personne n'avait prévu, c'est qu'en fait, il fait un gros bras d'honneur aux Allemands en disant « vous avez géré l'euro comme vous voulez, mais maintenant c'est terminé ». Et donc là, il y a une revanche des hommes sur les institutions, ça arrive quand même dans l'histoire, et on a ce truc sans précédent. Mais juste, voilà, pour conclure, c'est un peu long, pardon, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, quand on fait l'euro... Enfin, je veux dire, tout le monde... Enfin, bon, j'étais encore jeune à l'époque et naïf et tout, mais voilà, les Allemands savent exactement ce qu'ils font, et encore une fois, il n'y a que les Français sur la planète entière pour croire qu'on fait une europolitique. Enfin, c'est gravissime en termes d'Europe, en termes d'erreur d'analyse, quoi. C'est prodigieux. Et ce qui est dingue, c'est que cette idée... Voilà, moi, dans ma famille, etc., il y a encore plein de gens qui ont cette idée-là parce que c'est ce qui s'est passé quand il y a eu cet énorme débat national lors du traité de Maastricht en 92.
Merci pour cette réponse complète. Juste pour compléter, effectivement, c'est la question sous-jacente à ma première question. C'est en fait, finalement, dans quelle mesure l'euro a tout fait des États-Unis, mais là, en l'occurrence, de ce que tu dis, c'est purement allemand et à aucun moment les États-Unis ont pu vouloir, on va dire, pousser ou mettre en place ou influencer la mise en place de cette monnaie.
Mais ça, ouais, ça, mais voilà, ça, c'est ce que je sais pas. Ce que je sais pas, mais de toute façon, ma réponse, ça serait que les Américains, je pense, n'avaient pas besoin de pousser, parce que... Donc là, bon, bah, je refais un petit rappel historique, pardon, mais en fait, ça va faire le lien assez direct avec la crise en Ukraine, c'est que... donc, encore une fois, c'est quand même vraiment qu'il faudra qu'un jour on enseigne dans nos collèges et lycées, c'est que... Après la Seconde Guerre mondiale, vous avez une économie mondiale qui est évidemment totalement hiérarchisée, puisqu'on a encore les colonies anglaises, les colonies françaises partout, évidemment. Mais on a une économie qui est très organisée, qui est très, très organisée, et où il n'y a pas, en plus, tous les ordinateurs, il n'y a pas tous les moyens de communication, que appeler à New York, personne, en 1945, personne n'a les moyens de passer un coup de fil de Paris à New York, sauf à des grands banquiers, ça n'existe pas. Donc, on a une économie où les États sont très puissants, qui est hyper organisé, avec toutes les institutions internationales, hein, ce qu'on a appris à l'école, avec ce qu'on appelle le GATT, un ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce, avec donc les fameux accords de Bretton Woods. Et il faut quand même imaginer que là, c'est une période très courte finalement, mais le monde, pendant à peu près 25 ans, va quand même vivre dans une situation où les taux de change entre les monnaies sont fixes. Je ne sais pas si vous voyez le délire. C'est-à-dire que vous avez, c'est l'Union soviétique, mais à l'échelle mondiale. Hein, c'est-à-dire que vous avez ce prix très particulier qui est le taux de change entre les monnaies, qui est fixé politiquement, administrativement, par les ministres des Finances quand ils se rencontrent. Je ne sais pas si vous voyez le délire du truc. C'est-à-dire que vous avez un taux de change fixe entre le dollar, le Deutsche Mark, le franc, etc. Ce qui est génial, évidemment, du point de vue du commerce, parce que vous n'avez aucune incertitude sur le prix auquel vous allez acheter ou vendre, etc. Mais vous voyez à quel point l'économie est organisée. Bon. Et ensuite, je passe les détails. Le système, évidemment, ne va pas tenir très longtemps parce que les échanges vont se développer très, très vite dans les années 50 et 60. Ça va être l'énorme surprise de tout le monde. Notamment, le Japon va se remettre de la Seconde Guerre mondiale beaucoup plus vite que prévu, beaucoup grâce à l'aide américaine. Les Allemands vont se remettre beaucoup plus vite que prévu, encore grâce à l'aide américaine, à tel point que dès les années 60, les Allemands et les Japonais, qui évidemment étaient les plus avancés industriellement avant la Seconde Guerre mondiale, vont commencer à concurrencer les Américains. Et donc les Américains, qui sont en excédent commercial, hein, comme on l'a dit, après 1945, avec le plan Marshall, et où ils ont la moitié de l'or du monde est aux États-Unis, tellement ils ont engrangé de recettes pendant la guerre et tout, les États-Unis vont vite être concurrencés. Et donc leur réponse, ça va être... De mettre par terre le système de Bretton Woods pour retrouver la liberté de gérer le dollar comme ils le veulent, dans une logique, en fait, dans une pure logique de guerre commerciale. Et ce qui va se passer, c'est que la valeur du dollar va beaucoup baisser. Et comme les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient ne vendent pas le pétrole dans leur monnaie, mais le vendent en dollars, et c'est ça la spécificité du commerce international, c'est que quand vous achetez quelque chose comme une importation, donc évidemment on s'en rend plus du tout compte, encore moins avec l'euro. Mais quand vous importez quelque chose, en fait, vous achetez deux choses. Vous achetez la chose et vous achetez la monnaie du pays qui vend. Parce que quand vous achetez un truc qui vient de Chine, le producteur chinois, il a besoin d'être payé en yuan pour pouvoir payer ses impôts dans sa monnaie nationale, payer ses fournisseurs dans sa monnaie nationale, payer ses salariés dans sa monnaie nationale. Donc la grande spécificité du commerce international, c'est que vous achetez deux choses, la chose et la monnaie du pays exportateur. Et c'est là que ça devient tout de suite très intéressant, mais un petit peu compliqué. Bref, et donc les vendeurs de pétrole, voyant la forte baisse du dollar, et ben en fait, ça fait que leurs recettes se sont effondrées. Il y a eu en plus voilà, les événements géopolitiques, la guerre du Kippour, mais en fait, la première cause, si on regarde factuellement, du choc pétrolier de 73-74, c'est la forte baisse du dollar. Et donc, c'est pour vous dire que à ce moment-là, les effets des taux de change, ça a des conséquences très très réelles. Et donc, si je vous fais ce long détour, c'est pour répondre à votre question, c'est que les Européens, et notamment à l'époque... Valéry Giscard d'Estaing, tout ça, dès le début des années 70, hein, donc la date à retenir, c'est le fameux 15 août 1971, vous avez une allocution de Richard Nixon à la télé américaine où il annonce en fait la sortie du dollar du système de Bretton Woods, donc c'est notre date fétiche à nous, les profs d'économie. Donc dès ce moment-là, si vous voulez, les Européens se disent les Américains, ils jouent perso, et donc nous, on va aussi s'organiser face aux Américains. C'est pour ça que je vous dis, les Américains n'ont pas du tout eu besoin de soutenir la création de l'euro. Et donc, dès 1972, vous avez la création de ce qu'on appelle le serpent monétaire européen, qui ensuite va devenir le système monétaire européen, et qui ensuite va devenir l'euro, où c'est la panique sur les taux de change. Et encore une fois, on sort, vous voyez, d'une période de 25 ans où les taux de change étaient fixes. Vous voyez, c'est comme si vous imaginez, c'est pas un prix d'un truc que vous achetez tous les jours, votre café le matin se met à fluctuer complètement. Vous voyez, vous savez pas demain si le café il sera à 10 centimes ou s'il sera à 5 euros. Vous voyez. Et bon, vous imaginez, c'est ça sur tous les prix, c'est la panique la plus totale. Et donc les Européens, enfin là pour le coup, les Français et les Allemands principalement, ils se disent, bah, nous, il faut qu'on se mette, il faut qu'on se... Vous voyez, on avait cette énorme stabilité au niveau mondial, est mise par terre par les Américains. Et donc la logique des Européens, c'est de dire, bah, nous, on va se créer notre petit îlot de stabilité. Et de même qu'il y avait le système monétaire international de Bretton Woods de 1944 jusqu'en 1971, et ben, à partir de 1972, les Européens vont créer le système monétaire européen. Et d'ailleurs, au début, ils ne vont pas du tout y arriver parce que pour avoir un système stable, il aurait fallu qu'il y ait les mêmes taux d'inflation entre les pays européens. Et évidemment, déjà à l'époque, vous avez des taux d'inflation en Allemagne, par exemple, ou aux Pays-Bas, qui sont beaucoup plus faibles que les taux d'inflation en France et encore plus en Italie. Et donc, le système va se casser la gueule, et puis ensuite, etc., etc. Mais c'est pour ça que je vous dis, les Américains n'ont pas eu besoin de pousser, parce que c'était vraiment un projet... Mais évidemment, ça allait aussi dans le sens de l'intérêt des Américains, quoi.